Frères et sœurs, bonjour. Nous voici le dimanche 26 avril et nous sommes toujours en confinement. Certains d'entre vous travaillent, les enfants n'ont pas repris l'école. En tout état de cause, le retour à une existence normale, disons comme avant, n'a pas eu lieu. Notre culte à l'Église n'est pas d'actualité. Nous le regrettons. Il nous manque. La communion fraternelle nous manque. Les louanges nous manquent. Se revoir nous manque. Échanger quelques mots entre nous nous manque. C'est vrai, mais nous devons l'accepter. Le message de ce matin existe en audio seulement. Je vais donc vous le livrer tel quel, sans les gestes, sans les regards, mais avec toujours autant de conviction que possible. Je voudrais ce matin vous parler d'un homme de l'Écriture qui aimait marcher avec son Dieu et qui, par son attitude, nous indique l'importance d'être attaché au Seigneur et d'encourager ceux que nous rencontrons. Sans doute vous vous dites que il existe plusieurs personnages, au moins dans l'Écriture, qui ont ces caractéristiques. C'est vrai. Mais je voudrais vous parler de Joseph. Sans doute vous pensez à Joseph, le fils de Jacob, le fils de Rachel, l'enfant favori de Jacob. Eh bien non, ce n'est pas le Joseph de l'Ancien Testament que je souhaite partager ce matin. Certes, il y a plusieurs Joseph dans l'Ancien Testament, mais celui à qui je pense se trouve dans le Nouveau Testament. Donc vous pensez probablement à Joseph, le fiancé, puis ensuite l'époux de Marie, le charpentier dont il est question dans l'Écriture. Eh bien non. Ce n'est pas lui non plus. Alors qui est ce Joseph du Nouveau Testament? Et vous pensez sans doute à Joseph d'Arimathée, qui demande à Pilate de prendre le corps de Christ et de le mettre dans son propre tombeau. Eh bien non, ce n'est pas de lui non plus dont il est question. Mais alors, qui? Ah, bien sûr, il y a eu un dénommé José, forme grecque, disons, du nom de Joseph, qui est un des frères du Seigneur, mais là encore, non, il ne s'agit pas de ce Joseph. Alors, les plus érudits d'entre nous ont probablement trouvé la réponse. Ne vous en faites pas. Moi-même, si l'on m'avait posé cette question il y a un mois, je n'aurais pas pu répondre. Et c'est en lisant l'Écriture que je me suis rendu compte que le personnage que je voudrais vous parler ce matin, dont je voudrais vous parler, s'appelait Joseph. C'est l'Écriture qui le dit. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous deux versets qui se trouvent dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 3 et au verset 4 du chapitre 1er de 2 Corinthiens. Il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Alors, Christian, nous attendons la réponse. Elle vient et elle se trouve dans l'Écriture. Joseph, dont il est question, avait un surnom. Il se nommait Barnabas. Ah, Barnabas. Sans doute, là, cela vous éclaire un peu plus sur qui était Barnabas. Vous savez, Barnabas, le compagnon de l'apôtre Paul, celui qui est parti au cours du premier voyage missionnaire de Paul, Paul et Barnabas. Dans Actes, au chapitre 4 et au verset 36, il nous est dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas ». Voilà qui était Barnabas. Barnabas était un surnom qui lui avait été donné par les apôtres, mais en réalité il s'appelait Joseph. C'était assez courant à cette époque-là quand de changer de prénom. On le voit par exemple pour Saul qui s'appelle Barnabas, pour Saul qui s'appelle Paul, et donc pour d'autres personnes. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Ah, je sais que plusieurs d'entre vous, je ne dévoilerai rien, portent des surnoms. Surnoms donnés par, bien souvent, les grands-parents, par les oncles, ou tout au moins par les membres de la famille, voire même par des amis. Et au fil des années, ces surnoms deviennent, en quelque sorte, les noms principaux, et certains d'entre vous les portent aujourd'hui encore. Ils sont connus. Ils sont connus, sauf, bien sûr, par l'administration qui ne reconnaît que le premier prénom qui a été donné. Joseph était surnommé Barnabas par les apôtres. Mais on doit se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi il était surnommé Barnabas par les apôtres? Il faut pour cela, je pense, regarder la vie de Joseph et de comprendre. Toujours au verset 36 du chapitre 4, il nous est dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». On dit aussi, suivant un peu les traductions, qu'il était « fils d'exhortation », c'est-à-dire il était quelqu'un qui exhortait ou quelqu'un qui consolait. Et parfois, on trouve aussi « fils de consolation ». Voilà le surnom de Joseph. Il était quelqu'un qui consolait. Alors, il consolait qui? Il consolait les premières personnes qui se convertissaient à Jérusalem. Connaissait les chrétiens, on ne les appelait pas encore chrétiens, mais les disciples, en tout cas, de Christ. Et sans doute, un des rôles naturels que Joseph, que Barnabas avait, c'est qu'il consolait. C'était un surnom qui lui allait bien. D'ailleurs, dans Actes au chapitre 11 et au verset 24, il nous est dit concernant Barnabas, ceci, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Voilà qui était Barnabas. C'était quelqu'un qui était apprécié, utile, nécessaire pour les apôtres, mais aussi pour les disciples qui se trouvaient autour de lui. Dans le chapitre 9 de Actes des apôtres, il y a un événement important qui va se produire. On pourrait même dire un miracle qui va se réaliser. Sans doute vous le savez, vous l'avez déjà lu bien sûr, c'est la conversion de Saul. Saul était parti sur le chemin de Damas, il allait à Damas, quand tout à coup, une lumière est apparue du ciel, au point que tous, lui et ses compagnons, tombèrent par terre. Et là, Saul, en fin de compte, a entendu une voix. Lui seul a entendu une voix. Ses compagnons qui étaient là se sont demandé ce qui se passait, mais ils n'entendaient rien. Et dans cette voix qui venait du ciel, qui venait de la lumière, il lui est dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu, Seigneur ? » lui dit Saul à ce moment-là. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, la conversion est un miracle. Toute personne qui se tourne vers Jésus-Christ est un miracle. C'est un miracle. Vous savez, vous chantez souvent ce cantique, un vrai miracle, c'est un miracle qui se produit quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur. Mais celui de Saul aussi a été un miracle. Dans le chapitre 9, au verset 15, le Seigneur avertit un autre homme qui s'appelle Ananias et il lui dit « Va vers cet homme, en parlant de Saul, c'est un instrument que j'ai choisi. » Saul se convertit. Bien sûr, partout la nouvelle s'est répandue, non seulement à Damas, non seulement dans la région d'où il était originaire, non seulement par les chrétiens ou par les disciples de Christ qui existaient à cette époque-là, il s'est répandu la nouvelle. Le tortionnaire s'est donné au Seigneur. Une nouvelle création en Christ. Voici ce qu'est devenu Saul, celui que nous redoutions, celui en qui nous avions des difficultés pour le croire, pour le recevoir. N'est-ce pas lui, dans l'Écriture, dont il est question, il nous est dit qu'il chassait les femmes, les hommes, qui étaient donc des disciples de Christ, il rentrait dans leur maison, il les jetait en prison. Il était... Bah d'ailleurs, au chapitre, je crois que c'est à la fin du chapitre 8, il nous est dit qu'il a approuvé la mort d'Étienne, la lapidation d'Étienne. C'était quelqu'un qui faisait peur, quelque part. Le mieux, c'était de ne pas le rencontrer, de ne pas le voir. Et voilà la nouvelle. Il s'est converti, il est devenu disciple de Christ. Dans le chapitre 9 d'Actes des Apôtres, au verset 26, rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, donc Joseph, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Voilà qui était pas. La conversion avait changé littéralement cet homme. Mais on peut comprendre que les apôtres, les disciples qui étaient à Jérusalem, qui avaient subi des attaques de la part de Paul, de la part de Saul, se posaient la question et ils hésitaient en tout cas à le croire. Et il a fallu que Barnabas, ce fils de la consolation, soit avec Saul. C'est lui qui parla, c'est lui qui raconta comment Saul avait rencontré Jésus-Christ et comment il rendait témoignage. Vous savez, lorsqu'il est arrivé à Damas, Saul s'est fait baptiser. Il est resté, je crois, 3 jours sans voir, mais ensuite, il s'est fait baptiser. Et aussitôt, il est allé à la synagogue de Damas, et là, il a commencé à parler de Christ. Barnabas, fils de consolation. Il était probablement un fils de consolation pour Paul, pas seulement pour les apôtres. Paul avait besoin de quelqu'un à côté de lui qui consolait, qui aidait, qui exhortait. Beaucoup de personnes se sont converties, surtout à Antioche. Et là, Barnabas, il fut envoyé par les apôtres. Puis il alla à Tarse chercher Saul, et ensemble, ils allèrent à Antioche, où ils restèrent une année. On pense d'ailleurs que Saul est resté, je crois, 3 ans à peu près à Tarse et à Damas, en tout cas, avant d'arriver à Antioche. Donc les années passaient, mais on avait du mal à comprendre, en tout cas, que Saul était réellement chrétien. Et quand il est arrivé à Antioche, d'ailleurs c'est à Antioche que les premiers disciples de Christ, en tout cas, ont été appelés chrétiens, l'Écriture nous dit, ça se trouve, je crois, dans Actes au chapitre 11. Et puis ensuite, au chapitre 13, on voit que Paul, donc Saul, et Barnabas sont ensemble dans l'Église. Et c'est là que le Saint-Esprit leur dit de les mettre à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc, ils sont partis pour le premier voyage missionnaire. Alors, il y avait Saul, Paul, en fin de compte, il y avait Joseph, Barnabas, et il y avait Jean, qui était surnommé aussi Marc, et qui sont partis tous les trois pour le premier voyage missionnaire de Paul, ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de Paul. Ensuite, au chapitre 15, on voit le deuxième voyage missionnaire, et là, il y a un petit problème qui se passe entre Barnabas et Paul, c'est au sujet de Marc. Marc les avait abandonnés au cours du premier voyage missionnaire. On ne sait pas pourquoi. L'Écriture ne nous dit pas. Est-ce que Marc était jeune? C'est peut-être un problème. Si c'était sa jeunesse, son manque de persévérance dans la mission, sa nostalgie de Jérusalem, pourquoi pas? En tout cas, il ne nous est pas dit dans l'Écriture, il ne nous est pas dit dans l'Écriture la raison pour laquelle Marc les a abandonnés. Et donc, au cours de ce deuxième voyage missionnaire, il a semblé naturel pour Paul de ne pas prendre avec lui Marc qui les avait abandonnés. Ce n'était pas le cas de Barnabas. Vous allez me dire, Barnabas, probablement il avait consolé, il avait exhorté Marc, et Marc lui avait donné sans doute des signes de contrition. Mais Marc était aussi le cousin de Barnabas. Alors est-ce que ceci a aidé cela? L'Écriture ne nous dit pas non plus. En tout cas, Barnabas est parti avec Marc. Il est parti du côté de Chypre. Parce que Barnabas était originaire de Chypre, c'est d'ailleurs lui qui a probablement créé la première église qui se trouvait à Chypre, première église de chrétiens. Mais est-ce que cela les a séparés pour toujours?
Eh bien, pas du tout.
Pas du tout. D'ailleurs, on voit dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 11, où l'apôtre Paul dira en écrivant à Timothée, Marc est utile pour le ministère. Il m'est utile. Marc est devenu aussi l'auteur de l'évangile, du deuxième évangile de l'Écriture. Est-ce que le Seigneur nous reproche, à vitam aeternam, comme on dit, les erreurs que l'on fait? Est-ce que si on revient au Seigneur et que l'on confesse ses erreurs, son péché, est-ce que le Seigneur nous pardonne réellement? Est-ce que le Seigneur nous donne de nouveau confiance, nous fait de nouveau confiance dans le ministère qu'il nous a donné? La question est posée ici, en ce qui concerne Marc. Mais ce n'est pas le but du message de ce matin, donc je le laisserai pour plus tard. Je dirais que Barnabas, eh bien c'est lui qui a aidé son cousin, probablement faible. Il l'avait aidé à remonter la pente, comme on dit. Il était près de lui, prêt à lui faire confiance. Il l'a fait, et Marc est devenu pour Paul une aide précieuse. Dans Galates, de nouveau, nous voyons Barnabas et Paul ensemble venir et visiter l'église de Jérusalem. Ils ne s'étaient pas séparés pour tout le temps. Il y a eu un différend entre eux à un certain moment, c'est vrai. Mais vous savez, quand on a un frère qui est consolateur, exhortateur, on a vraiment besoin de lui. On a vraiment besoin d'être entouré, d'être consolé, d'être aidé par lui. On ne se sépare pas comme cela d'un frère surnommé Barnabas. On a besoin de lui. Il nous console dans l'adversité et dans les épreuves. Et c'est probablement ce que l'apôtre Paul a pu expérimenter au cours de sa vie. Ce que les apôtres ont expérimenté, c'était l'utilité de Barnabas. Est-ce que vous êtes des Barnabas ce matin? Je connais personne qui se surnomme Barnabas. Mais c'est bien dommage, je ne connais pas de gens, effectivement, et peut-être vous en connaissez, je ne sais pas, mais nous sommes tous en quelque sorte les uns les autres, les hommes comme les femmes, les sœurs comme les frères, nous sommes appelés à être des Barnabas. Nous sommes appelés à donner à nos frères et nos sœurs de la consolation. Dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, donc dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, il nous est dit au verset 3 et au verset 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Il y a, je crois, à travers ces 2 versets, au moins 2 points à relever. Le premier point, c'est que le Père de notre Seigneur, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, nous console. Il y a quelques semaines, je partageais avec vous un verset qui se trouvait dans Ésaïe, au chapitre 66, au verset 13. L'Éternel nous console comme une mère console son fils. L'Éternel nous aime tendrement. Il vous aime. Il est rempli d'affection et de compassion à votre égard. Vous savez, je crois que je l'ai expliqué là, il y a quelques semaines, mais quand une maman console son enfant. Bien souvent, elle ne dit rien. Elle ouvre ses bras, elle le serre contre son cœur. L'enfant, s'il est tombé, s'il a eu peur parce que, je ne sais pas moi, une araignée est venue, ou quelque chose comme ça, ou il a fait un cauchemar pendant la nuit, il y a quelques sanglots. Mais ce dont il a besoin, c'est de sentir sa maman et de sentir la consolation. Eh bien, le Seigneur, il est ainsi pour chacun d'entre nous. Comment nous console-t-il? Il nous console par sa parole. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il nous console aussi par son Saint-Esprit, par son Esprit. On le voit dans Jean, lorsque Jésus nous dit « Le Consolateur, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous dis. » Le Seigneur nous parle par son Esprit. Il nous parle aussi par les fils de consolation. Il nous parle aussi par Barnabas. Je pense souvent à Éphésiens chapitre 5 et verset 19, oui, où il nous est dit ceci, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est un petit peu ce que nous faisons depuis... déjà depuis un moment, bien sûr, mais aussi pendant ce confinement, car nous avons les réseaux sociaux, et à travers les réseaux sociaux, et à travers en tout cas WhatsApp, là où nous sommes tous connectés, nous nous entretenons par des cantiques, nous nous entretenons par des paroles de réconfort. Le Seigneur permet cela, nous nous réjouissons en quelque sorte de cette opportunité. Nous avons besoin, vous avez besoin, nous avons besoin, les uns les autres, d'être encouragés et fortifiés. Et puis, le deuxième point qui nous est donné ici, dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, c'est que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. C'est une responsabilité importante que le Seigneur nous accorde. Et en ce sens, nous devrions tous être surnommés Barnabas. Barnabas, ce n'est pas masculin seulement, c'est masculin et féminin. C'est quelque chose qui nous est important pour les uns et pour les autres. Nous devons nous aider, nous devons nous consoler les uns les autres. Et vous savez, on pourra presque rajouter un troisième point à ces deux points, c'est que non seulement nous devons le faire, mais le Seigneur nous demande de le faire. Le Seigneur nous associe à son œuvre. Nous sommes appelés de la part du Seigneur à consoler nos frères et sœurs. Et si nous passons à côté, si nous n'osons pas encourager, consoler, aider un frère ou une sœur dans la difficulté, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. C'est un travail qui est donné à chacun par le Seigneur. Il nous le donne parce qu'il nous aime. Nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur. Alors, frères, sœurs, en Christ, nous qui avons le Seigneur avec nous, nous qui sommes des chrétiens qui aimons leur Seigneur, des chrétiens qui aimons notre Seigneur et notre Sauveur, nous nous devons de consoler aussi les uns les autres. Un petit mot, un petit sourire, peut-être en ce moment, un petit coup de téléphone, une petite exhortation, a apporté sur WhatsApp un cantique à partager. Oui, nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons nous faire du bien. Parce que c'est un commandement que le Seigneur nous accorde. On verra que nous sommes enfants de Dieu par l'amour que nous nous portons les uns les autres. L'Écriture est importante. Elle nous enseigne comment nous devons agir, comment nous devons nous comporter. Elle nous montre que nous sommes au Seigneur. Elle nous montre que les liens indestructibles qui existent sont des liens qui ont été tissés par Christ à la croix. Le Seigneur ne nous a pas sauvés individuellement en oubliant et les uns et les autres. Il nous est dit dans l'Écriture que Christ est mort pour tout le monde. Tous ceux qui viennent à Christ et qui acceptent Christ, qui confessent leurs péchés, passent de la mort à la vie. Que ce soit quelqu'un qui a commis beaucoup de péchés, si on peut le nommer ainsi, tel que Paul, par exemple, ou quelqu'un qui a commis peu de péchés, le Seigneur donne le salut à chacun. L'Écriture nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, parce que le Seigneur a tout changé. Il nous est dit dans l'Écriture qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle jour après jour, le Seigneur est là, instant après instant, le Seigneur est disponible pour nous pardonner. Il est fidèle et en même temps il est juste, parce que la justice de Dieu, c'est le pardon du péché. On a du mal parfois à saisir ce qu'il en a coûté pour le Seigneur lui-même et aussi pour le Père céleste que de pardonner, que de donner son propre Fils sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Christ a dit sur la croix. Parce que lorsque le péché est venu sur Christ, il y a eu une séparation entre le Père et le Fils à ce moment-là, à cause du péché. Que le Seigneur puisse nous aider les uns les autres à persévérer, bien sûr, dans son amour, et que 2 Corinthiens, chapitre 1er, nous invite à consoler, à être des Barnabas qui nous indiquent ressembler. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole ce matin. Amen.